surtout de la vie avec notre chum Pierre Houde. Gravel dans le retour avec Denis, Véro, Audrey et Pierre Houde.
88-971-1021 pour nous rejoindre, c'est Gravel dans le retour à Boulevard 1021. Bon vendredi, bon début de week-end. Vous êtes des amateurs de statistiques. Moi aussi, j'ai une statistique très intéressante concernant le Canadien de Montréal. J'ai l'affiche du Canadien depuis que Pierre Houde a reçu le prix Foster Hewitt du Temple de la renommée du hockey. 3 victoires, une défaite et une fiche d'efficacité de 100% à domicile. Je veux pas rien jinxer en parlant, là, mais c'est quand même un état de fait. Pierre Houde, comment ça va?
Porte-bonheur!
Écoute, c'est j'aime ça. Tes présentations sont de plus en plus arthuriennes.
Je vais le prendre comme un compliment.
Prends-le comme un compliment. J'ai toujours admiré le côté communicateur d'André Arthur. Et il y avait toujours ces énoncés. Pierre Houde, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Écoute, merci, Denis. Je t'avoue que je n'avais pas vu cet angle-là. Mais c'est vrai.
C'est exclusif.
Dormir le Canadien dans le mix, Pierre.
Bravo.
C'est compliqué.
Là, écoute, il faut qu'on en gagne quelques autres pour revenir dans le mix. Parce que tes Browns ont gagné hier. Je sais qu'on va en parler tantôt.
Oui, oui.
Mais il n'y a personne qui est vraiment loin du mix, là, si tu regardes dans l'Est.
Ben oui.
C'est encore ouvert. Mais le mix, c'est quoi? Le mix, dans le fond, c'est les deux équipes repêchées. Parce qu'on s'entend que Tampa, on s'entend que Toronto, Floride, ben même Tampa à 22 points, c'est pas fort fort. Mais non. Disons que c'est surtout, on parle surtout là, des troisième et quatrième places dans chacune des sections et où les quatrièmes, les équipes repêchées là, qui vont terminer derrière la troisième place dans leur section.
C'était beau de te voir sur la patinoire lundi dernier. Je trouve que le Canadien t'a rendu un bel hommage, la foule aussi. J'ai été surpris, je pensais que tu allais rester dans ton perchoir en haut, mais de te voir avec ta gang en bas, encore une fois, j'ai eu un petit moment d'émotion puis un petit moment de chair de poule. Et quand j'ai vu que 5 minutes après la fin de la cérémonie, tu étais déjà de retour en haut avec Marc, j'ai dit « Tabarnouche, il n'y a rien pour le faire arrêter. Je pensais au moins que tu allais virer une brosse au Salon des Anciens.
» Non, non. C'était pas dans les plans. Le plan a été très bien fait. Puis la coïncidence était bonne parce que c'est un match national à Prime Video en anglais au Canada. Oui. Donc, c'est un match un peu plus tard. Puis c'est un avant-match un peu plus long aussi. Alors, en me présentant avant l'hymne national, et donc pendant l'hymne et ensuite la pause commerciale et ainsi de suite, ça m'a donné le temps de remonter. Je pense que j'ai raté quoi, 30 secondes de la période?
À peu près, mais quel surréalisme d'entendre Marc Denis, dans ton absence, commencer le début du match. On est tellement habitué de vous avoir chacun à votre place. Là. J'ai eu un sentiment de vertige. Le temps que je n'ai pas entendu ta voix, là, j'ai dit « Oh là là, j'ai perdu mes repères. »
Mais écoute, c'était tout un moment, vraiment. J'avais pas vraiment vu venir l'intronisation au Temple de la renommée, mais ce que le Canadien allait faire lundi, je ne l'ai pas vu venir non plus. Puis, dans le fond, ce que vous n'avez pas vu à la télé, c'est peut-être ce qui m'a le plus knock-outé, c'est tout ce qui a été fait dans le salon de la presse avant le salon Jacques Beauchamp.
Okay.
Écoute, d'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi, ben, pour vous trois, là, quand je vais aller à Québec. On m'a rendu hommage dans le salon des journalistes, le salon Jacques Beauchamp, mais en fait, il y a plus que des journalistes maintenant qui sont là. On m'a remis un magnifique encadrement dans lequel il y a un chandail du Canadien signé par les joueurs avec le numéro 50, 50 étant mon nombre d'années professionnelles. Et il est absolument magnifique. Et on m'a ensuite remis des beaux verres à scotch. J'ai reçu une bouteille de vodka Guy Lafleur signée par le regretté Guy Lafleur. Wow. Mais j'ai aussi reçu, tiens-toi bien, de la part de la brasserie Molson, j'ai reçu une caisse de 24 d'une bière,
ben
oui. Bouteille Molson X avec ma photo.
J'ai vu ça passer sur les médias sociaux avec ta face. Je pensais que c'était genre collé, fait pour l'espace d'une photo seulement, moi.
Non, non, vraiment, ils en ont remis à tous ceux qui étaient dans le salon de la presse ce soir-là. Alors, plusieurs ont ouvert leur bière, pas moi, parce que ça me tente. Je travaillais après, puis tout ça, mais il y en a plusieurs qui ont ouvert leur bière. Et puis, j'ai une caisse de 24. Alors,
wow.
Écoute, je vous en garderai.
Oh, yeah.
Je vous en garderai au moins quelques-unes pour le cadeau de Noël, pour votre cadeau de Noël. Je ne sais pas si je vais vous voir avant Noël, mais sinon, ce sera dès que j'aurai la chance d'aller à Québec. Alors, ça a lancé vraiment la soirée de façon très, très émouvante. Et je vous le dis, je n'avais pas vu venir tout ça là, de la part de l'organisation du Canadien. Et sur la glace, je réalise que j'y suis jamais vraiment allé sur la patinoire dans le cadre d'un match. Je suis déjà allé pour des parties privées, pour des événements que j'animais, mais je ne me suis jamais retrouvé dans ce contexte-là. Et quand Michel m'a présenté, que j'ai mis le pied sur le petit tapis, écoute, j'ai été emporté, j'ai été soulevé.
T'avais l'air soufflé. J'ai vu que, je ne sais pas si c'était un sentiment de vertige, parce que habituellement t'es plus haut que ça, de voir la foule de cet angle-là, les émotions. Je me demandais vraiment ce qui se passait entre tes deux oreilles, Pierre.
Ben, j'avais de la misère moi-même à savoir ce qui se passait, Denis, parce que c'est quelque chose. Là. D'abord, cet amphithéâtre-là, quand il est plein, là, je réalise que ce que les joueurs disent, là, que c'est spécial et que c'est... Parce qu'il a été bâti sur un terrain restreint. Hein? On ne pouvait pas s'étendre sur la vieille gare, la vieille gare Windsor. Mm-hmm. Et donc, il fallait le faire en hauteur. Donc, il était déjà allé de nombreuses fois, puis vous trois aussi. Donc, vous le savez, je ne vous apprends rien, il est très incliné, il est très escarpé. Donc, c'est très haut, mais ce n'est pas étendu en surface. Fait que tu te retrouves comme au pied du bol. Puis là, t'as tout le monde qui se lève d'un trait. Puis là, je m'attendais pas à ça non plus. Tu sais, écoute... Puis là, c'est l'ovation qui part, puis ça semble pas vouloir arrêter. Puis moi, le gars de TV dans ma tête, c'est... Je peux pas laisser aller ça, parce que il est déjà 8h moins 10.
T'avais un chrono qui était là, là.
J'avais le chrono de la télévision dans ma tête.
Ils me feront pas un Guy Lafleur, ils me feront pas un Patrick Roy, faut être à l'heure, là.
Mais pas un Maurice Richard surtout, mais ça, j'ai pas la prétention d'être à cette hauteur-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me trottait dans la tête, puis je disais, je peux pas laisser aller ça. Puis là, en même temps, je disais, mais en même temps, et c'est pas moi qui génère ça, les gens ont du plaisir à le faire. Alors, j'ai laissé aller un petit bout, puis Michel Lacroix, après ça, me dit, on voit que tu as de l'expérience, parce qu'il dit, bien des gens n'auraient pas été capables de prendre le micro puis d'aller par-dessus la foule.
Ouais.
Moi, j'ai été capable de le faire parce que j'ai la portée de voix, puis j'ai l'expérience, puis je voulais surtout pas que ça se prolonge indûment. Alors, mais c'était absolument extraordinaire, puis j'avais écrit ce petit papier-là en après-midi avec encore là, sans filtre. Il me restait des gens que je voulais remercier. Et je trouvais que c'était le bon contexte, les remercier. Je tenais absolument à remercier l'organisation du Canadien. C'est pas mon employeur, mais je me sens à la maison depuis 35 ans. Puis sentir à la maison, puis sentir que les portes du temple sont ouvertes, je parle pas du temple de la renommée, je parle de celui du Centre Bell, ben c'est un très bon feeling. Puis je tenais à remercier les joueurs.
J'ai trouvé que c'était une belle attention. Le thank you guys pour votre disponibilité, puis ainsi de suite. Je pense que plusieurs, dans les mêmes circonstances, auraient oublié cet aspect-là. J'ai trouvé que c'était une belle attention de ta part.
Ben merci, Denis, parce que j'y ai toujours cru. J'ai souvent dit aux joueurs, même qui viennent dans des circonstances parfois qui ne sont pas faciles, s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas faire aussi bien notre travail. Et puis je me suis retourné, mon regard a croisé celui de Brendan Gallagher, et puis je me suis retourné de l'autre bord, mais imagine-toi celui qui était le plus avancé de l'autre côté, puis qui me regardait en approuvant, c'était Connor McDavid. Ça m'a donné un frisson.
Wow.
C'était absolument incroyable. Et tu vois qu'il était reconnaissant que je pense à ça, mais j'ai pas pensé pour bien paraître, j'ai pensé parce que j'y crois. Puis à un moment donné, j'ai pointé vers les arbitres, parce qu'on avait un Québécois qui était là, Pierre Lambert, puis ils font un travail, ils font le pire travail au monde, le travail le plus difficile au monde. J'ai tenu à le faire, mais je tenais surtout à remercier individuellement tous les spectateurs au Centre Bell et les téléspectateurs et dans les deux langues, parce que la cérémonie a été aussi diffusée à Prime, parce que c'est ça qui nous garde là aussi longtemps. S'il n'y avait pas de fidélité, puis s'il n'y avait pas de suivi de la part de l'auditoire, on n'y serait plus après un certain nombre d'années.
Et le plus bel hommage, ben, c'est Connor McDavid et les Oilers qui te l'ont rendu quand ils ont décidé au début de la game. Hey, à soir, guys, là, on score.
On lève le gaz.
On la donne à Pierre pour les Canadiens, ce soir.
ils ont pas paru à leur mieux, je te le concède.
C'est vrai.
Je pense qu'ils étaient un peu ébranlés encore de la remontée des Leafs, puis de la blessure à Darnell Nurse, puis le coup épouvantable de Reeves à Darnell Nurse.
Ouais.
Je pense qu'ils étaient encore un peu intimidés par ça, mais il faut donner crédit aux Canadiens, Denis, parce que Stéphane Robida avait fait son plan de match en défense. Il avait inversé Goulet et Matheson.
Ah, ils ont été solides.
Ils ont été très solides. Et ça, on a une équipe qui était préparée pour affronter les Oilers. Et je ne sais pas, je pense que la victoire du samedi précédent avait laissé de très, très beaux, de très belles vibrations, une belle énergie dans le Centre Bell. Mmh. Écoute, moi, je l'ai vécu sur la glace, là. Il y avait quelque chose de spécial dans l'air,
okay,
ce soir-là. Puis je pense que ça s'est transporté chez tous les joueurs individuellement. La plupart n'ont rien à se reprocher. Montembeau a été excellent.
Oui.
Alors, je ne dis pas qu'on est rendu, là, parce qu'il faut que tu remettes ça à zéro puis tu recommences demain soir. Mais c'était, je pense, un moment là où tout tombait en place pour l'équipe si l'adversaire n'était pas à son mieux.
C'est-tu malheureux, une pause dans un alignement d'étoiles comme celui-là? Tu le disais, il restait des bonnes vibrations de la victoire de samedi. Lundi, tout roule, on blanchit les Oilers et Connor McDavid. Puis là, whoop! Une pause de plusieurs jours avant de reprendre contre Vegas. Il me semble que quand tu es sur un air d'aller, c'est la pire affaire qu'il peut y avoir. Excusez-moi l'expression, mademoiselle, un coït interrompu, Pierre.
Ben, écoute. Encore là, ça dépend des âges aussi. mais en fait, c'est pas faux ce que je veux dire. Ça dépend probablement de chaque joueur. Puis
okay,
si tu posais la question aux 23 joueurs sur la formation officielle, puis aux entraîneurs, tu aurais probablement moitié-moitié.
Mm-hmm.
C'est sûr que les entraîneurs se plaignent toujours du manque de temps pour travailler ceci, travailler cela. On veut peaufiner certaines choses, on veut tester de nouvelles combinaisons, et ainsi de suite. Alors là, pour une fois, tu l'as, ce temps-là. Les plus vieux vont probablement te dire, « Ben, moi, l'interruption, je déteste pas ça, parce que je manque de temps avec ma famille, je manque de temps à la maison, je manque de temps de partage dans le quotidien familial. » Peut-être que les plus jeunes diraient, « Non, nous, on aurait voulu jouer tout de suite le lendemain sur l'air d'aller.
Ouais. »
Alors, je pense que c'est pas une science exacte. Je pense que tu n'aurais pas une réponse pareille. C'est comme les matchs en après-midi. La moitié des joueurs vont dire, hey, « Moi, j'aime ça, je me lève, bang, je m'en vais travailler, puis c'est fini après. » D'autres vont dire, « Je déteste ça, ça me sort de ma routine. » Alors, dans le fond, la réponse à ta question, c'est le début du match demain, tu vas le voir.
Ouais.
Il va peut-être y avoir énormément de positifs à traîner de cette semaine relâchée, mais au contraire, tu vas peut-être avoir un peu de rouille. Puis tu joues encore, évidemment, contre l'une des très bonnes équipes dans la Ligue nationale. Cette équipe-là, des Golden Knights, ne ralentit pas. Alors, tu as tout un adversaire. Donc, c'est tout un test, mais tu auras une bonne réponse à ta question en début de match demain.
À suivre, à suivre. Il y a une tendance incontournable. C'est presque une science dans la Ligue nationale de hockey. La vie est cruelle avec les entraîneurs de la LNH.
Mm-hmm.
Et Jim Montgomery est devenu le premier entraîneur cette année à perdre son emploi avec une fiche hallucinante de 120 victoires, 41 défaites et 23 défaites en prolongation. C'est probablement une des meilleures fiches avec laquelle un entraîneur aura perdu son emploi. Jim Montgomery, qui ne devrait pas avoir de misère à se retrouver une job, moi j'ai l'impression que dans le prochain mouvement latéral d'entraîneur, c'en est un qui va réussir à se glisser vers une autre équipe. C'est pas la première fois que les Bruins enlèvent le boulot à un entraîneur qui fait bien puis qui a une fiche très positive. Le dernier coach Vegas, puis il est allé chercher une Coupe Stanley avec eux. C'est quand même une situation particulière. J'ai entendu de beaux hommages qui ont été rendus à Montgomery par Brad Marchand, par Charlie McAvoy. Puis, tu as écouté le match d'hier contre Ohio. Moi, j'ai beaucoup... Contre Ohio, contre Utah.
Je
m'habituerai. Je pensais à Ohio Players.
Il va falloir qu'il y ait un nom d'équipe à un moment donné, puis là, ça va te permettre
ouais,
de
ouais, créer. Oui, les Coyotes du Utah, ah, là,
ouais,
on va les appeler de même. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, moi, hier.
Ben, écoute, c'est encore là, il y a toujours différents points de vue. Moi, à propos du congédiement de l'entraîneur, je t'ai donné mon opinion la semaine passée.
Oui.
Et elle ne change pas une semaine plus tard.
Mm.
Je pense qu'on a sacrifié la mauvaise personne.
Ouais.
Quelle preuve supplémentaire a-t-on besoin sur la qualité de cet entraîneur-là? Et je vais aller plus loin que ça, sur les qualités humaines d'un homme qui a surmonté ses vices, qui a surmonté ses démons,
exact.
Qui a réussi à cesser de boire. Il est maintenant parfaitement sobre. Que veut-on demander de plus ou quelle preuve supplémentaire doit-on donner à une équipe? Cela dit, peut-être que c'est en haut de lui. Les propriétaires auraient peut-être dû, les Jacobs auraient peut-être dû regarder, est-ce qu'on a les bons hommes pour mener cette équipe-là? Est-ce qu'on a affronté le vieillissement des Bruins de la bonne façon? Mm-hmm. Est-ce qu'on a cherché à combler d'avance les énormes trous qu'on allait créer avec les joueurs retraités et les deux gros en particulier, et avec le plafond salarial qui t'oblige à en transiger d'autres? Moi, personnellement, je pense que l'incompétence est venue d'abord et avant tout de Cam Neely et de Sweeney et de Don Sweeney, même si tu vas me dire qu'ils avaient réussi des miracles dans le passé. Oui, ils ont fait de bonnes choses dans le passé, mais je pense qu'on a sous-estimé le travail qu'il y avait à faire. D'autre part, est-ce que c'était le temps? Est-ce qu'on était déjà à la limite là, de la patience? Peut-être qu'on a agi un peu vite aussi. Mais en même temps, les DG et les décideurs ont parfois un lien, ils ont une connexion avec le vestiaire, ils ont une connexion avec leurs vétérans, ils ont une connexion avec leurs leaders. Puis, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce qu'on peut sortir de là? Je ne dis pas que c'est ça qui a été fait, mais je dis que ça se fait dans des cas comme ça. Est-ce qu'on peut se sortir de là? On a jugé que Montgomery ne pouvait plus récupérer ce qui était devenu irrécupérable dans la tête des dirigeants. Mais je pense qu'on a sacrifié un des meilleurs hommes de hockey des cinq ou des dix dernières années dans la Ligue nationale. Hier, tu as aimé ce que tu as vu. Moi, je vais t'avouer que je l'ai vu peut-être un peu d'un autre angle.
Okay.
J'attendais la flamme, j'attendais le feu, j'attendais... Je m'attendais à un début extrêmement enjoué de la part des Bruins. Je vois aussi une équipe de Utah qui est complètement à la dérive, une équipe qui a du talent, mais qui va très mal par les temps qui courent. Moi, je n'ai pas été convaincu par ce que j'ai vu hier par les Bruins. 1-0 là, dans le contexte qu'on a vu hier, c'est pas extraordinaire. Mais tu as besoin d'une première victoire, tu as besoin d'une première étape. Puis ils l'ont eu hier. Puis j'écoutais même les commentaires des commentateurs à la fin. Ils disaient, ouais, c'est pas très beau, c'est pas un chef-d'œuvre, c'était pas un Picasso, mais c'est une victoire qui est extrêmement importante dans les circonstances. Puis on verra s'ils peuvent... Comme on dit, tu peux bâtir là-dessus, comme le Canadien peut bâtir sur ses trois victoires dernièrement.
Avant de parler de F1, Pierre, je pense que tu as une moseuse de belles suggestions de cadeaux de Noël pour les amateurs de hockey de toutes les générations, là.
Ah, bien, écoute, Denis, je te remercie de m'offrir ça. Je ne vais pas faire une publicité gratuite là, sur votre antenne, mais j'ai collaboré à un très beau projet qui s'appelle La plus grande dynastie. C'est une idée qu'a eu Serge Savard. Quand Serge Savard a fait son tournoi de golf cet été, et tous les profits vont à la fondation de l'Université de Sherbrooke, dont Serge a ça très à cœur, il a dit à un éditeur, pourquoi on ne fait pas un livre avec ça, mais pas un livre trop ambitieux, pas un livre trop lourd, quelque chose qui est agréable à avoir sur le coin du bureau, mm-hmm. sur la table à café. Et Ovation Media m'a contacté, moi, pour écrire un des chapitres de ce livre-là qui porte sur la dynastie des Canadiens. Mais Serge a eu l'idée de commencer en 68 et non pas seulement les 4 Coupes Stanley consécutives.
Okay, okay.
Parce que le Canadien a commencé vraiment à être fort et à surprendre la Ligue nationale de hockey à partir de 68. Tu sais, la Coupe de 71, ça devait aller aux Bruins. Mm-hmm. Les Bruins auraient dû en avoir 3 de suite. Mais le Canadien a renversé un peu la tendance et ensuite a établi sa grande domination. Donc, ça commence en 68 et on a demandé, pour ne pas dire à des vieux, on a demandé à des...
des gens qui l'ont vécu.
des observateurs chevronnés.
C'est l'expérience, Pierre. C'est l'expérience.
L'expérience, comme disait Gilles Tremblay.
L'œil aguerri de ces observateurs d'expérience.
Voilà. Alors, on a donc demandé à Pierre Ledouceur, Ron Fournier, Bertrand Raymond, Marc Defoy. On m'a demandé aussi à moi, donc, d'écrire un chapitre.
Très cool.
Et ce qu'on fait, c'est qu'on couvre tous les angles. Moi, j'ai écrit sur Sam Pollock, qui a été le grand architecte de cette dynastie-là. Mais l'architecte de cette dynastie-là en relevant des défis considérables, celui de la première expansion en 67, l'universalité du repêchage, la fin de la mainmise des 6 équipes originales sur leurs équipes juniors qui étaient dans le fond, qui nourrissaient avec un grand talent, l'association des joueurs qui devenait de plus en plus musclée. Bref, Sam Pollock a eu à composer avec tout ça pour bâtir l'équipe. D'autres chapitres parlent des entraîneurs, dont Scotty Bowman, mais aussi une grande attention à Claude Ruel, le Big Three, Guy Lafleur, évidemment, la star de cette époque-là. Et ce que j'aime beaucoup, Denis, c'est que c'est très illustré et bien illustré. Alors, vous ne vous perdrez pas là, dans une mer de mots et tout ça. C'est vraiment bien. Et on l'a fait dans les deux langues. Alors, si vous avez des amis anglophones que ça pourrait intéresser, ben, c'est fait aussi dans les deux langues. Le lancement officiel a eu lieu mercredi, là, au 9-4-10. Alors, je te remercie de m'offrir d'en parler parce que c'est vraiment bien fait. Je suis très fier d'avoir collaboré. Ça s'appelle la plus grande dynastie.
OK. Simplement. C'est le fun parce que je remarque, tu sais, la nouvelle génération des amateurs de hockey, mm-hmm. des fans du Canadien. Évidemment, ces années de gloire-là, ils les connaissent pas. T'sais, mes gars n'ont pas vu le Canadien gagner une Coupe Stanley. On a des amateurs. Notre chum Max n'a pas vu le Canadien gagner une Coupe Stanley encore de son vivant. De se plonger dans cette période-là en images, en feeling, avec vos observations à vous autres. Moi, je pense que c'est une très belle idée, un très beau projet.
Ben, c'est Serge qui était derrière ça. Puis tu sais, quand Serge te demande, écoute, veux-tu collaborer, tu dis oui. J'ai un respect absolu pour lui. Ouais. Tu fais pas ça pour l'argent, tu fais pas ça pour la gloire. Tu fais ça simplement parce que c'est touchant que Serge Savard pense à toi pour écrire un morceau de l'histoire. Oui. Puis tu sais que moi, je suis parfois attristé qu'on sous-estime et on oublie trop facilement les grands moments de notre société. Et ça, c'est du sport, mais je parle des autres aussi. C'est vrai aussi pour les grands artistes, les auteurs, compositeurs et ainsi de suite. Mm-hmm. Ceux qui ont réussi en affaires, les grands politiciens. On a tendance à oublier beaucoup trop maintenant parce que tout ça se perd dans le dédale médiatique. Là. Alors, c'est bien d'avoir des outils comme ça parce que tu vois, tu vas regarder ça avec tes gars. Là. Oui. Tu vas dire, regarde, lui, c'était lui. Là. Regarde l'autre dont on parle. Puis tu sais, le numéro un tel, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Puis là, tes gars vont voir des photos. Puis ils vont. Je suis sûr que ça va les allumer c'est comme amateurs de hockey.
Absolument, absolument. Pierre, il nous reste quelques minutes pour parler de F1. Le Grand Prix de Montréal, le Grand Prix du Canada aura désormais lieu en mai.
À partir de 2026, oui.
Il me semble que. Moi, ça faisait partie de. Je pense que ça faisait partie du rituel de bien des Québécois au-delà des amateurs de F1. OK, c'est le Grand Prix du Canada, les vacances s'en viennent, la Saint-Jean est pas loin. Ça fait bizarre. Ça va faire bizarre un Grand Prix en mai, je trouve.
Oui, ça va faire bizarre. Puis je vais te donner tout de suite les défis à relever d'un Grand Prix en mai. Puis le premier défi, c'est pas tellement la météo de ce week-end-là en particulier. Il peut faire bien beau. Mm-hmm. Là. Puis écoute, à Las Vegas, là, la nuit dernière, quand les voitures couraient, il faisait 8 degrés. Là. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est pas. Ça, on peut vivre avec ça. Par contre, les organisateurs qui ont à faire et défaire à chaque année, pas 100%, mais une bonne partie du circuit, ben si tu leur enlèves 2-3 semaines, c'est énorme. Puis c'est une bonne tempête de neige au mois d'avril, comme ça peut arriver. Uh-huh. Alors, ça peut créer des maux de tête. J'espère que ce ne sera pas le cas. En ce qui concerne la saison touristique, ben, le bureau de tourisme a plutôt bien réagi en disant, ben, écoutez, nous, c'est une occasion peut-être de lancer les choses 2-3 semaines d'avance. Et en plus, tout le monde a un an pour s'y habituer. Alors, les terrasses qui ne sont pas encore montées là, au mois de mai, eh bien, tu vas les monter probablement plus tôt. Et puis, tu vas devoir composer avec ça. L'envers de la médaille, Denis, et c'était la pression qui était très forte sur les épaules des organisateurs, c'est qu'il y avait un non-sens écologique dans le calendrier actuel. Il en restait un non-sens. Le non-sens, c'était on est en Europe, on vient à Miami, on retourne en Europe, on vient à Montréal pour tourner en Europe.
Ça fait beaucoup d'allers-retours pour le cirque complet de la F1. Là.
Bon, et il y a des pressions, évidemment, pour l'écologie. Il y a des pressions énormes sur la F1. Ça fait longtemps qu'on cherche à coller Miami et Montréal ensemble. Alors, on a trouvé enfin cette solution-là. Puis quand on va retourner en Europe au Grand Prix de Monaco, on va y rester jusqu'au mois de septembre. Alors, il y avait aussi tout ça. Et le nouveau président du groupe Octane, M. Paradis, a dit, écoutez, nous, groupe Octane, c'est aussi Bell en haut, là. Puis on est très soucieux aussi de notre responsabilité sociale et écologique. Alors, on va aller de pair avec la proposition.
On est à Vegas en fin de semaine, Pierre?
On est à Vegas en fin de semaine. Je viens de regarder, d'en différer la deuxième séance. Ça va bien pour les Mercedes en fin de semaine. Donc, les Mercedes étaient au sommet des deux séances. Catastrophique pour Red Bull et Max Verstappen. Oh. On a un aileron qui génère trop de traînées.
Okay.
Et tu as deux immenses lignes droites, dont la strip. Et puis, quand tu as trop de traînées, ben, qu'est-ce qui arrive? Tu perds la vitesse de pointe. Et c'est horrible pour l'instant lors des deux premières séances. Ça regarde bien aussi pour McLaren et pour Ferrari. Donc, ça va être intéressant pour la position de tête. Et je te souligne que mathématiquement, Verstappen peut être champion en fin de semaine.
OK.
S'il gagne, peu importe ce qui arrive aux autres, il est champion. Mm. S'il sort de Vegas avec un écart supérieur de 3 points supplémentaires par rapport à Norris, il est aussi
c'est
champion.
Réglé. Okay.
C'est réglé. Chez les pilotes, évidemment. Mm-hmm.
Ça va être à surveiller en fin de semaine. On va vous accompagner, évidemment, du côté de RDS. Pierre, merci beaucoup. Je te souhaite un bon week-end.
Merci. Des nuits blanches, minuit 30, les deux reportages, ce soir et samedi soir.
Courage, mais tu vas l'avoir. Ouais, toi.
Il vit comme un jeune rocker, oui. Tabarnou.
Écoute, à défaut d'être sur la strip de Vegas, je serai sur la strip de l'Île des Sœurs.
moins glam, mais c'est pas pire pareil.
Hey, on a des belles lumières, quand même.
Salut Pierre, bye bon Pierre. Week-end.
Salut, bon week-end.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans le retour, par texto 88